You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il est 13h, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les grands titres. Un vote de censure contre le gouvernement de la première ministre britannique Theresa May et le gouvernement a survécu de justesse, 325 voix contre 306. En Australie, révélation qu'un grand nombre d'antidépresseurs et de médicaments contre l'anxiété ont été prescrits aux personnes se trouvant au centre de détention de Nauru. Un vote de censure contre le gouvernement de la première ministre britannique Theresa May a été rejeté de justesse par 325 voix contre 306. La motion de censure présentée par le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn intervient un jour après le vote contre l'accord de Theresa May sur le Brexit. Elle a maintenant 2 jours pour proposer un autre accord. La première ministre a déclaré qu'elle continuerait à se battre pour obtenir le meilleur accord possible sur le Brexit.
This evening, the government has won the confidence of Parliament. But the deal which I have worked to agree with the European Union was rejected by MPs and by a large margin. So now MPs have made clear what they don't want. We must all work constructively together to set out what Parliament does want.
Theresa May, nous passons maintenant au reportage d'Anissa El Jabri pour Radio France Internationale.
Et oui, c'est le reflet de la très petite majorité de Theresa May, sauf qu'en plus, elle n'a même pas tout à fait fait le plein des voix. Alors ça reste, c'est vrai, un résultat sans surprise dès hier soir. Même ses adversaires les plus bruyants chez les conservateurs avaient annoncé leur soutien parce que le meilleur argument de Theresa May s'appelle Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes. C'est la bête noire des Tories qui ne sont de toute façon pas vraiment prêts à prendre le risque de perdre le pouvoir. Maintenant, la première ministre survit, c'est vrai, mais avec une autorité chancelante après le revers massif subi hier soir. Elle entame des discussions avec les parlementaires. Ça commence d'ailleurs maintenant. Elle a 3 jours pour faire avancer le débat. Elle doit présenter lundi un plan B aux députés. Ça renforce encore pour beaucoup d'observateurs une possibilité dont on parle déjà depuis une semaine, le report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La date est toujours prévue pour le 29 mars, c'est dans 10 semaines.
Un vote de censure contre le Premier ministre grec Alexis Tsipras, très serré, avec 151 voix contre 148. La motion de censure est intervenue après la ratification par Alexis Tsipras d'un accord conclu en juin par la Grèce pour renommer son voisin du Nord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui s'appellera désormais la Macédoine du Nord. En Australie, SBS a obtenu des informations du département de l'Intérieur montrant qu'un grand nombre de médicaments avaient été prescrits à des personnes se trouvant au centre de détention de Nauru au cours d'une période de 10 mois. L'année dernière, les informations obtenues en vertu des lois sur la liberté d'information. La force de police australienne a déclaré qu'il y avait 163 personnes dans le centre de détention en septembre, qui équivaut à environ 60 ordonnances par personne en moyenne entre janvier et novembre de l'année dernière. Selon certaines informations, la santé mentale des personnes détenues à Nauru continue de se détériorer. Écoutez Dr. Beth O'Connor, un psychiatre qui a travaillé pendant 11 mois jusqu'en septembre dernier pour Médecins sans frontières à Nauru.
We treated 208 refugee and asylum seeker patients. Of these patients, 60% of them had suicidal thoughts and 30% of them made a suicide attempt.
La ministre de l'Environnement, Melissa Price, a déclaré que l'annulation d'une subvention controversée de 444 millions de dollars à la Great Barrier Reef Foundation retarderait la protection du récif. L'année dernière, le gouvernement de Malcolm Turnbull a versé la subvention à la fondation sans le solliciter ni faire appel à la concurrence. Le National Audit Office a annoncé hier, mercredi, que toutes les décisions ayant motivé l'octroi de la subvention étaient fondées sur les conseils du ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Les travailleurs fidjiens seront bientôt autorisés à travailler dans des fermes australiennes. Le programme, qui auparavant limité à 2000 places, n'incluait pas des places pour les Fidjiens. Le programme permet aux travailleurs de certains pays du Pacifique de travailler en Australie régionale pendant 3 ans maximum. Le Premier ministre Scott Morrison est actuellement en visite à Fidji et il doit s'entretenir avec le gouvernement fidjien au sujet de la citoyenneté de Neil Prakash, membre du groupe de Daesh. Le ministre de l'Intérieur Peter Dutton a enlevé Neil Prakash de sa citoyenneté australienne en décembre dernier, estimant qu'il était également citoyen fidjien. Le gouvernement australien ne peut pas révoquer la citoyenneté de quelqu'un s'il le rend apatride. Les Fidji seraient en colère contre ce qu'elles considèrent comme des tentatives du gouvernement australien de leur transmettre Neil Prakash. Le porte-parole du Parti travailliste Mark Dreyfus a déclaré que Scott Morrison avait des explications à donner.
Mr. Morrison has two jobs today. Mr. Morrison has to apologize to our friends in Fiji and Mr. Morrison has to explain to the Australian people how this mess came about.
La police enquête sur la mort suspecte d'une femme à Melbourne hier. La femme, qui est une étudiante israélienne, a été retrouvée morte à quelques mètres d'un arrêt de tramway de Melbourne. Le consulat israélien en Australie serait en train de prendre des dispositions pour que son corps soit restitué à sa famille. En France, la commission d'enquête du Sénat auditionnait hier, mercredi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ainsi que le directeur de cabinet de la présidence de la République Patrick Strada sur Alexandre Benalla et l'usage de passeports diplomatiques après le licenciement d'Alexandre Benalla de l'Élysée. Précision de Anthony Latier pour RFI.
Alexandre Benalla est-il un falsificateur? Le directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Strada, l'accuse d'avoir fabriqué un faux document pour obtenir un passeport supplémentaire.
Soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République ce matin.
Alexandre Benalla est-il un menteur? Patrick Strada révèle que son ancien collaborateur a effectué une vingtaine de voyages avec ses passeports diplomatiques après son départ. Il avait pourtant assuré sous serment qu'il les avait laissés sur son bureau. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affirme lui n'avoir rien su de ses déplacements avant décembre.
Le passeport n'est pas un outil de police ni de renseignement. Et les propos, même de gens très sérieux selon lesquels quand on a un passeport diplomatique, le ministre des Affaires étrangères sait où se trouvent tous les titulaires du passeport diplomatique, on serait alors dans un état... ça serait la fin de l'état de droit.
Mais pourquoi a-t-il fallu attendre 6 mois pour qu'Alexandre Benalla rende ses passeports? Lenteur des procédures administratives, disent les personnalités auditionnées, sans convaincre le sénateur Jean-Pierre Sueur.
On se retrouve avec un nouveau stock de questions, de contradictions et de carences et de dysfonctionnements. On a bien fait de décider de faire de nouvelles auditions et nous voulons aller jusqu'au bout.
Tout le monde a désormais les yeux rivés sur la deuxième audition d'Alexandre Benalla lundi prochain.
Les médias kurdes rapportent que 3 soldats américains, 2 agents de sécurité et 13 civils sont morts dans l'attaque qui a eu lieu dans la ville de Manjib sous contrôle kurde. L'attaque a été revendiquée par le groupe Daesh qui affirme qu'un de ses militants a fait exploser un gilet explosif à côté d'une patrouille américaine. Ceci quelques semaines après la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de retirer 2000 soldats de Syrie, une décision que les critiques jugent prématurée. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a défendu Donald Trump, affirmant que l'influence de Daesh dans la région diminuait.
Thanks to the leadership of this commander-in-chief and the courage and sacrifice of our armed forces, we're now actually able to begin to hand off the fight against ISIS in Syria to our coalition partners, and we are bringing our troops home. The caliphate has crumbled and ISIS has been defeated.
On écoute maintenant le reportage d'Éric de Salve pour Radio France Internationale.
Contrairement au discours de Donald Trump, cet attentat de Minbij prouve que le groupe État islamique continue de tuer dans le nord syrien. En décembre, le président américain annonçait brutalement le retrait des 2000 soldats américains de Syrie, garantissant contre l'avis des observateurs l'anéantissement de l'organisation terroriste. Nous ramenons nos troupes à la maison. Le califat s'est écroulé, vient encore de déclarer le vice-président des États-Unis juste après l'attaque. Mike Pence précise tout de même que les États-Unis resteront dans la région pour assurer, dit-il, que le groupe EI ne montre plus sa face immonde. Immédiatement à Washington, première critique au sein même de la majorité, Lindsey Graham, influent sénateur républicain opposé au retrait américain de Syrie, déclare que cette décision a galvanisé les ennemis que nous combattons. Cette attaque s'est déroulée à Minbij, ville censée être pacifiée, reprise aux djihadistes en 2016 où sont basés les soldats américains. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis leur arrivée en Syrie en 2014. C'est un kamikaze de l'EI qui a déclenché sa ceinture explosive lors du passage d'une patrouille de la coalition. Au moins 16 soldats ont été tués, pour la plupart des FDS, cette force à majorité kurde soutenue par les États-Unis et donc également, selon le Pentagone, plusieurs soldats américains.
Des observateurs de l'ONU au Yémen, bientôt le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier une résolution pour élargir les rangs de sa mission d'observation, soit de maintenir le cessez-le-feu fragile entre les rebelles Houthis et le gouvernement. Explication de Marie Brault pour RFI.
Depuis le début du mois de janvier, une vingtaine d'observateurs étaient déjà partis au Yémen, mais ils n'avaient pu que constater la très difficile mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu à la mi-décembre en Suède, qui prévoyait notamment le retrait des forces armées de la ville d'Odeida. Avec l'augmentation de cette mission à 75 observateurs, les diplomates envoient maintenant le signal que le Yémen reste sous le radar de l'ONU, qui veut aboutir à un accord politique et de paix durable dans le pays. Ces observateurs non armés, déployés sous l'autorité du général néerlandais Patrick Kermert, rejoindront Odeida, principal port de débarquement de l'aide humanitaire dans le pays, ainsi que Salef et Rassissa sur la mer Rouge. Ils ne seront cependant pas suffisants pour porter à bout de bras un accord de Stockholm aussi précieux que fragile. Sa survie est maintenant de la responsabilité des rebelles Houthis et du gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie Saoudite.
Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximale de 26 degrés, Adélaïde 37, Melbourne 33, Hobart 25, Canberra 41, Sydney 32, Brisbane 32, Cairns 32, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 40 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 17 janvier. Un vote de censure contre le gouvernement de la première ministre britannique Theresa May et le gouvernement a survécu de justesse, 325 voix contre 306. En Australie, révélation qu'un grand nombre d'antidépresseurs et de médicaments contre l'anxiété ont été prescrits aux personnes se trouvant au centre de détention de Nauru. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.